France Inter.
Il est 9h50. Place aux nouvelles têtes, Mathilde Serrel, ce matin, un artiste du tout monde, Julien Creuset, dans notre studio, portrait sonore.
Montez la rivière, à force jambé, roche ni en l'air, ou qu'érivé la sous la casotille. Montez la rivière.
La musique qui berce son enfance, c'est celle de Kali avec un K. Avec lui, la langue créole représente la France pour la première fois à l'Eurovision en 1992. Lui, il a 6 ans à ce moment-là et grandit dans la cité de Dillon à Fort-de-France en Martinique. Son père l'emmène souvent se promener dans les bois de Lens-Couleuvre, une immersion en pleine nature qui marquera son art. Ses premiers textes lui viennent quelques années plus tard, au collège, où il écoute surtout ça.
It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one of the sun. But you really lost one.
The Miseducation of Lauryn Hill, première écoute et première référence adolescente absolue. Après le lycée, il intègre le campus caribéen des arts à Fort-de-France, conserve ce goût pour le sampling qui lui vient du hip-hop et poursuit son cursus dans les écoles d'art, cette fois en métropole. Caen, Cherbourg, Lyon et enfin Tourcoing, le voilà devenu artiste contemporain, bientôt exposé dans le monde entier et aujourd'hui à 37 ans, premier artiste caribéen à représenter la France à la Biennale de Venise.
Notre pavillon met à l'honneur le travail de Julien Creuset.
Étonnamment et joyeusement positif.
J'ai beaucoup aimé l'ambiance, la musique.
Ces couleurs, cet espoir avec ce rapport à la mythologie.
À la fois un travail poétique, futuriste, énigmatique. Cher Julien, vous êtes... je peux dire, la culture française à son meilleur.
Les mots de la ministre. Avec lui, le pavillon français devient un espace multisensoriel de vidéos, de sculptures, de musique, de sons et même d'odeurs au confluent des mondes. Julien Creuset, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Et vous?
Ça va.
Vous arrivez de Venise, en gondole?
Non, je reviens j'arrive de Montreuil.
Où vous habitez maintenant. Vous étiez donc à cette 60e Biennale d'art contemporain de Venise, vous avez monté puis présenté le pavillon français. Quand on dit le premier artiste franco-caribéen ou le premier artiste ultramarin à représenter la France, ça vous évoque quoi?
Ben, je pense que c'est stigmatiser aussi des individus. Alors, j'aime bien répondre à chaque fois que je suis pas le premier, que j'appartiens à une grande famille de l'histoire de l'art, que y a des artistes depuis toujours en Martinique. Je repense, je sais pas, à Ernest Breuler et à plein d'autres. Christian Bertin, Victor Anissé, et j'ai appris beaucoup de ces personnes. Et puis je cite souvent Zane Palsy, qui gagne la Mostra de Venise avec le film La rue Cazenègre.
Mais c'est quand même la première fois qu'on confiait le pavillon français à un artiste franco-caribéen. Ça donne quand même... Vous dites que vous acceptez de cette charge, ce sens, à condition de bien l'explorer, quoi.
Oui, je pense que c'est une responsabilité aussi d'offrir, en tout cas aux autres, une exposition. Donc là, offrir un pavillon national, ça prend une autre mesure. Mais l'idée, c'est que l'exposition soit en tout cas une expérience à vivre et que les autres puissent s'en saisir.
Vous avez gardé quelque chose du hip-hop dans ce pavillon français, puisque c'est votre élan premier, votre expression première.
Le hip-hop me tient à cœur. Tout à l'heure, on a écouté Luigi, on a écouté Lauryn Hill, on a parlé de Senna, ça me fait penser à un titre de Doc Gineco, Nirvana, ouais. Aussi. Et puis, je crois que ça m'accompagne. L'art contemporain, par exemple, et se référence toujours, en fait, à une histoire de l'art. Le hip-hop aussi se référence toujours avec cette idée du sampling. Et puis, il y a toujours des liens étroits comme ça avec la littérature, l'acte, en tout cas, d'écrire. De savoir comment on peut amplifier le réel. Je crois que produire des formes visuelles comme de la sculpture, des installations, des films, c'est aussi prendre cette charge, voir comment en fait on traduit nos vies, comment on le ressent, comment tout cela peut se réinterpréter.
Et la culture hip-hop a 50 ans, donc quand on a 37 ans, on est de toute façon infusé.
Infusé par elle, ou dans qu'on soit... le hip-hop.
Alors, et infusé dans votre exposition, il y a de la poésie, il y a votre voix aussi qu'on entend, donc il y a quand même aussi la musicalité que vous avez gardée, et vous êtes toujours poète. Il y a tous les sens qui sont convoqués, donc particulièrement l'odorat aussi. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir... Vous dites, on verra à quel point les senteurs sont têtues et ténues.
Je crois qu'une odeur peut nous donner une meilleure approche sur l'acte de regarder. Je crois qu'on minimise en fait certains sens, comme le nez et les oreilles. Je crois que regarder aussi, ça s'écoute et ça se sent. Voilà. Je pense que ça amplifie en tout cas ce que l'on voit.
Il y a peut-être une mode de l'immersif, du tout immersif dans les projets culturels, les projets d'art contemporain. Vous vouliez le prendre vraiment le plus sérieusement possible, et aussi parce que vous êtes convaincu peut-être que la vue ne suffit plus au XXIe siècle.
Je crois qu'une exposition, c'est un espace dans lequel on est là avec tout son corps. Je sais pas, moi, la vie qui m'entoure, elle grouille, elle est pas silencieuse, elle est pas sans odeur. Je crois que c'est aussi accepter aussi de rendre ces espaces vivants.
Il y a aussi une idée de la mémoire qui est particulière avec un sens comme l'odorat. Vous dites que dans l'art caribéen, dans la pensée caribéenne, c'est essentiel la question de la mémoire. C'était aussi pour ça que vous vouliez convoquer les odeurs.
Je crois que les odeurs, ça revient toujours à différents types de mémoire. Ça convoque des souvenirs et que tout un chacun, on a des multiples expériences. Donc quand on sent par exemple de la lavande, peut-être qu'elle va nous renvoyer comme ça dans notre imaginaire de tout un chacun à quelque part. Et je crois que c'est cette zone que ça peut créer chez l'autre m'intéresse en tout cas.
Parce que ça fait plusieurs mondes au même endroit. En fait, et plusieurs temps.
Parce qu'en fonction de qui l'on est, d'où on vient, on peut en tout cas avoir son propre espace pour pouvoir apprécier, comprendre, interpréter. Et je crois que c'est important de laisser cet espace aux autres.
Vous avez voulu aussi lancer ce pavillon français, cette expérience du pavillon français près de la maison d'Aimé Césaire. C'était important pour vous. Et qu'est-ce que vous vouliez donner comme symbolique, du coup, à cette conférence de presse, ce geste-là?
Cette fois-ci, on n'était pas près de la maison d'Aimé Césaire. On était un peu plus loin, de Fort-de-France, dans la ville du Diamant, où a habité Édouard Glissant. Et symboliquement, je crois que c'était important de commencer dans un lieu où il peut y avoir un imaginaire fort, fertile et puissant, comme une sorte de comment on va appréhender la vie et le monde tous ensemble. Je réduis, c'est un peu réducteur comme formule, mais je crois que c'est important d'apprendre à partager l'essentiel, l'air, l'eau, les ressources. Et qu'il y a quelque chose de ça dans les textes de Glissant qui m'ont intéressé.
Merci Julien Creuset. C'est jusqu'au 24 novembre 2024, la Biennale de Venise. À bientôt.
À bientôt.
Bonne route.
Merci.